VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Crise en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh, toujours déterminé à défier les appels de la communauté internationale en général et de la CEDEAO en particulier, lui demandant de céder le pouvoir à l'opposant Adama Barrow, vainqueur des récentes présidentielles gambiennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce jeudi sur un projet de résolution en faveur d'une intervention militaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en Gambie, pour assurer la passation de pouvoir dans ce pays. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a donné son accord pour un éventuel déploiement de 205 militaires en Gambie dans le cadre d'un mandat régional ouest-africain, en appui du Nigeria et du Sénégal pour imposer Adama Barrow face à Yahya Jammeh. Le mandat de Yahya Jammeh ayant maintenant expiré, M. Barrow compte prêter serment incessamment en tant que nouveau président gambien à l'ambassade de Gambie à Dakar au Sénégal, qui est techniquement territoire gambien. Adama Barrow est depuis le 15 janvier au Sénégal à la demande de la CEDEAO. Selon les observateurs, une intervention militaire semble de plus en plus probable. De Dakar, notre correspondant Sedina Abba Gueye.
Dans la journée du mercredi, la force d'intervention de la CEDEAO s'est dit prête à intervenir à Gambie si Yahya Jammeh ne quittait pas le pouvoir à minuit, temps universel. Ce délai expiré, les militaires étaient toujours dans l'attente d'une intervention imminente en Gambie, même si le chef d'état-major des armées gambiennes a assuré qu'il n'engagerait pas ses hommes dans un conflit armé. Face à cette situation délicate, les Gambiens continuent de trouver refuge par milliers au Sénégal. Sedina Abba Gueye, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Selon les derniers chiffres des autorités sénégalaises, 26 000 personnes ont déjà traversé la frontière entre la Gambie et le Sénégal, et ce, entre le 1er et le 16 janvier. Les équipes du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parlent, elles, d'un flux ininterrompu. On écoute Hélène Co, la porte-parole du HCR à Dakar, au micro de Tatiana Mosso.
La plupart des gens qui passent, en fait, ce sont des enfants. 75% à 80% sont des enfants accompagnés par des femmes. Ça veut dire que les parents, les familles qui habitent en Gambie ont pensé avant tout à mettre leurs enfants à l'abri au Sénégal. Ces personnes qui arrivent, ces enfants qui arrivent, restent principalement chez des membres de leur famille, du côté sénégalais, ou dans des familles hôtes. Et c'est vrai que l'une des priorités du gouvernement sénégalais comme des agences humanitaires, ça va aussi d'être sûr que ces familles puissent avoir suffisamment de ressources pour aider les nouvelles arrivées.
Est-ce que ces réfugiés sont uniquement des Gambiens ?
Ce sont des flux mixtes, ce sont des personnes de différentes nationalités, différents profils qui arrivent. Il y a des Gambiens, il y a des Sénégalais, il y a des gens qui ont la double nationalité sénégalaise et gambienne. Les équipes du HCR rapportent aussi qu'il y a des Ghanéens, des Libériens, des Guinéens, des Mauritaniens qui partent la Gambie pour temporairement au moins venir au Sénégal. Ce qu'il faut aussi noter quand même, c'est qu'il y a toujours eu de toute façon entre les deux pays un flux, un trafic transitoire normal, puisqu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a toujours eu forcément beaucoup d'échanges commerciaux ou de gens qui passaient pour aller voir des membres de leur famille.
Pour vos équipes, quelle est l'urgence lorsqu'ils accueillent ces réfugiés à la frontière ?
Les autorités sénégalaises sont présentes, bien sûr, sur le terrain, qui recensent en fait les gens qui arrivent, des chiffres au niveau de leurs besoins. Les gens qui arrivent sont en bon état de santé, ils viennent juste de quitter, ils arrivent soit en bus, soit avec leur propre voiture. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gros besoins immédiats. Mais par contre, c'est vrai qu'ils vont rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en restant dans des familles autres, il va forcément y avoir des besoins auxquels il va falloir répondre. Les autorités sénégalaises ont communiqué qu'elles étaient prêtes à assister rapidement jusqu'à 50 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 000 personnes qui vont passer, mais leur plan de contingence immédiat, c'est ça. Leur plan de contingence à plus long terme, c'est jusqu'à 100 000 personnes. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à distribuer très rapidement dans les jours qui viennent des denrées, notamment de l'huile, du sucre, puis aussi des couvertures, des draps, des nattes, donc de l'assistance de première nécessité pour aider les gens qui arrivent.
Hélène Co, porte-parole du HCR à Dakar au Sénégal.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta en visite ce jeudi à Gao, où un attentat suicide a fait 77 morts hier parmi les combattants de groupes armés maliens signataires de l'accord de paix. L'attaque a été revendiquée par l'organisation du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Le groupe de Belmokhtar identifie l'auteur de l'attaque comme Abdelhadi Al-Foulani, indiquant son appartenance à l'ethnie Peul. Pour sa part, le gouvernement malien a affirmé que l'attentat avait été perpétré par plusieurs personnes, faisant état de 5 kamikazes. Au Burkina Faso, 19 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré, qui avait projeté de libérer des collègues emprisonnés après le putsch raté de septembre 2015, ont été condamnés mercredi à Ouagadougou à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison ferme. Le caporal Madi Ouedraogo, cerveau présumé du projet, son complice, le sergent Mahamadi Zalé, et un civil, Cheikh Alassane Ouedraogo dit Ladji, imam présenté comme le barabou du groupe, ont écopé du maximum de 15 ans de détention. Il y a eu au total 20 condamnations, 29 personnes étaient dans le box des accusés, 27 membres du RSP et 2 civils. Burundi, le gouvernement burundais et l'Union africaine, l'UA, ont conclu ce jeudi un accord sur les modalités de paiement des soldats burundais déployés en Somalie dans le cadre de la MISOM, la force de l'Union africaine. C'est ce qu'a annoncé le premier vice-président burundais Gaston Sidimuro. Nous sommes satisfaits, un protocole d'accord a été signé, a déclaré M. Sidimuro après une rencontre avec le commissaire de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Smail Shergi. Le mémorandum a été signé dans la matinée par les émissaires de l'Union africaine et une délégation burundaise comprenant les ministres des Affaires étrangères, de la sécurité publique et de la défense. Le Burundi avait fait pression sur l'Union africaine en annonçant lundi qu'il allait entamer la procédure de retrait de ses troupes déployées en Somalie si aucun accord n'était trouvé sur le paiement des salaires de ses soldats. Les salaires de la MISOM sont financés par l'Union européenne, mais les modalités de paiement sont encadrées par un accord entre l'Union africaine et les pays contributeurs. L'Union européenne ne versait plus depuis des mois à Bujumbura les 5 millions d'euros mensuels destinés à payer les soldats burundais en Somalie. Elle avait demandé à l'Union africaine de trouver un moyen de payer ses soldats directement sans passer par la Banque centrale du Burundi afin d'empêcher le gouvernement burundais, asphyxié économiquement par les sanctions internationales, d'utiliser cet argent à d'autres fins. D'après l'accord conclu entre l'Union africaine et le Burundi, l'argent dévolu au paiement des salaires et de leurs arriérés passera par une banque commerciale burundaise. C'est ce qu'a expliqué le ministre Sindimro, enfin le vice-président Sindimro. Il reste cependant à voir si l'Union européenne sera convaincue par le nouveau mécanisme proposé. Aucun diplomate européen en poste au Burundi n'a pu être joint pour commenter ces nouveaux développements. On passe maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon. Au programme ce jeudi au match du groupe B à Franceville, le duel du Maghreb, Tunisie-Algérie qui vient de commencer. Et puis à 19h, temps universel, le leader de la poule, le Sénégal, aura un match piège face au Zimbabwe qui a fait douter l'Algérie lors de la précédente journée. Mise en perspective avec Amédine Dinsi à Franceville.
En effet, Sénégalais et Zimbabwéens vont se croiser pour la sixième fois, toute compétition confondue, sanctionnée par 3 succès de chaque côté. Cela veut dire que ce match aura un parfum épique car il va départager les deux équipes. Cette septième confrontation entre Lyon et Warriors s'annonce difficile selon le coach de Lyon du Sénégal, Aliou Cissé.
Nous savons que nous allons vers un match difficile. C'est vrai qu'on les a vus évoluer contre l'Algérie. Ça a surpris beaucoup de gens, mais moi personnellement, ça ne me surprend pas parce que ça fait un bon bout de temps que je surveille cette équipe de Zimbabwe. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous sommes dans une poule difficile où chacun aura sa chance de passer.
Pour le défenseur Kalidou Koulibaly, qui aura en face de lui des flèches comme Malagika, le match ne sera pas du tout facile.
Le match du Zimbabwe va être très difficile. Même pour les favoris, c'est bien pour eux. Nous, on sait ce qu'on est. On est là pour passer le tour. On va tout faire pour ça. Après, voilà, que ça soit favori ou pas, nous, on est concentré sur notre match. On veut gagner ce match. match.
Du côté du Zimbabwe, la confiance règne. D'ailleurs, pour le coach des Warriors, Kalisa, son équipe partira avec la faveur des pronostics. Qui du Sénégal ou du Zimbabwe va prendre le dessus? Réponse jeudi soir. Amédine Si, France Ville, Joie Afrique.